Bonjour ou rebonjour à tous. Je vais mettre la première, Pedro. J'avais prévu de parler du monde musulman avant que l'actualité ne le mette particulièrement sur le devant de la scène ce week-end. Puis dans les affrontements militaires, il y a donc d'autant plus d'actualité de prier pour les gens de cette région. Et à ce titre, je ne sais pas si vous avez parcouru, ou si vous utilisez le livret intitulé « 30 jours de prière pour le monde musulman » qui nous a été envoyé pour nous encourager à prier pour nos contemporains. Cette période du mois de Ramadan dans l'islam, nous encourager à prier de façon particulière pour nos prochains, qui sont de confession musulmane, ou dans des familles, ou pays, de culture musulmane. Si ce n'est pas le cas, ben je nous y encourage, bien sûr. C'est bien plus vaste que le Moyen-Orient, et c'est bien d'actualité. Et au-delà des conflits armés ou autres drames, chaque jour, il y a dans ce livret démonstration de ce que Dieu est vivant. Vivant et agissant aux quatre coins de notre planète ronde. Par le témoignage de comment il agit dans la vie d'un tel ou d'une telle, ici ou là. Oui, Dieu change encore et toujours des cœurs et des vies. Et c'est un encouragement. C'est une grande joie, c'est un appel à toujours et encore intercéder pour que sa grâce touche plus de personnes dans notre voisinage et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on le sait, il y a de la résistance. Il y a de la résistance, et c'est peu de le dire. En ce moment, à l'étude biblique, nous démarrons le très riche et bel évangile de Jean. Et c'est aussi le constat que Jean faisait déjà. Et j'en rappelle quelques versets du prologue que vous connaissez sans doute. Jean, chapitre 20. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Et je saute au verset 4. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 9. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. L'apôtre Jean est des fois assez énigmatique, pour moi en tout cas, dans sa façon de s'exprimer. Mais il parle assez clairement ici de Jésus. Jésus venu dans le monde comme une lumière venant éclairer les ténèbres. Une lumière pour laquelle il y a deux réactions possibles. Le rejet ou l'accueil. Et c'est avec cela en tête que je vous propose de lire l'un des témoignages du livret de prière que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Vous l'avez peut-être donc déjà lu, mais pas grave. Donc quelqu'un qui témoigne. Bonjour, je m'appelle Moussa et voici mon histoire. Quand j'avais 12 ans, je vivais avec ma famille dans une région chaude et désertique, entourée de grands rochers rouges. Autrefois, mon peuple était nomade. Il se déplaçait dans le désert pour trouver de l'eau, de l'herbe, pour les moutons et les chameaux. Aujourd'hui, la plupart des familles se sont installées près des palmeraies. là où il y a de l'eau. Nous cultivons la terre et nous élevons encore des animaux. Moi, j'ai toujours aimé écouter la radio et lire. Un jour, j'ai entendu une émission où un homme parlait de Jésus. Je ne connaissais pas cette histoire, mais elle m'a beaucoup intéressé. Il disait que si on lui écrivait, il enverrait une Bible pour mieux connaître Jésus. Alors j'ai pris un papier et un crayon, et j'ai écrit tout de suite. Quelques semaines plus tard, la Bible est bien arrivée dans mon pays. Mais les douaniers l'ont ouverte avant moi. En voyant que c'était une Bible, ils se sont fâchés. Dans mon pays, on n'a pas le droit de lire des livres qui parlent d'une autre religion que l'islam. Les douaniers ont cherché qui avait demandé ce livre. Et ils ont découvert que c'était moi. Le directeur de mon école a été averti. Il m'a convoqué dans son bureau. Ils ont crié que je n'avais pas le droit de vouloir une Bible. Puis ils m'ont frappé. J'avais mal et mon visage est resté gonflé plusieurs jours. Et je me demandais, pourquoi ce livre fait-il si peur? Qu'y a-t-il dedans pour qu'on me punisse autant? Pourquoi ce livre fait-il si peur? Qu'y a-t-il dedans pour qu'on me punisse autant? Voilà ce que ce jeune de 12 ans s'est demandé à propos de la Bible, qu'il découvrira plus tard comme étant la parole de Dieu. Car cela n'a pas éteint sa curiosité, au contraire. Mais je vous laisserai lire la suite de l'histoire, vous-même, si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi ce livre fait-il si peur? Alors je ne sais pas si peur est toujours le mot juste, mais c'est ce qu'il dit en tout cas. Et en reprenant les termes de l'apôtre Jean, on peut aussi questionner. Pourquoi les ténèbres ne veulent-elles pas accueillir la lumière? Pourquoi les êtres humains, une grande majorité en tout cas à ce jour, n'accueillent-elles pas la lumière de la vie? La lumière dans leur vie? Et les raisons sont sans doute très nombreuses, et ce matin, nous verrons que le début de quelques pistes de réflexion, et j'en propose trois en particulier. Premièrement, la peur, à cause de plein de préjugés. Deuxièmement, la peur de la révélation spirituelle. Je mets en lumière la Bible. Et troisièmement, peur, car la Bible, Dieu, change effectivement les rites. Peur à cause de plein de préjugés. Je crois que l'on peut dire qu'un jugement non éclairé est un préjugé. C'est une croyance, une opinion préconçue, un a priori, qui dans l'absolu peut être positif ou négatif, mais si cela engendre plutôt la peur ou la méfiance, ou pire encore, c'est évidemment plutôt négatif. En tout cas, et je ne vous apprends rien, depuis les débuts de l'Église, depuis le temps de Jésus, des tas d'idées fausses, d'a priori, de mécompréhension, de méconnaissance ont pu circuler. Et pour vous donner une idée de jusqu'où ça peut aller, vous savez peut-être, mais dans l'Empire romain, les premiers siècles, les fausses accusations allaient jusqu'à dire que les chrétiens faisaient des sacrifices d'enfants pour la scène. Et oui, puisque les chrétiens mangent le corps et boivent le sang de quelqu'un quand ils prennent la scène. Ou encore que les chrétiens pratiquaient l'inceste. Et oui, comme ils disent tous frères et sœurs, c'est quand même louche. Les chrétiens étaient aussi souvent tenus pour responsables des guerres, ou des famines, ou des autres calamités de ce genre. Car ces malédictions ne pouvaient être que de leur faute. Et oui, comme les chrétiens n'adoraient pas les dieux comme tout le monde, les dieux étaient en colère. Cela peut nous sembler ridicule et risible, hein, mais les rumeurs se répandent souvent plus vite que la vérité. Et les rumeurs ont souvent la vie dure, aussi stupides puissent-elles être. Et même si cela n'enlève pas la responsabilité personnelle de chaque personne, Satan le menteur ne fait sans aucun doute, se fait moins, sans aucun doute un malin plaisir à déformer les choses, à propager des mensonges. Cela ou bien d'autres. Alors, je ne pense pas qu'il y ait encore ce genre de préjugés aujourd'hui, mais les témoignages dans le livret de prière expriment encore que dans le monde musulman, dans certains pays en tout cas, beaucoup de gens pensent que les chrétiens adorent trop Dieu. Un polythéisme détestable pour eux. Beaucoup pensent aussi que les chrétiens vivent dans l'immoralité. Ce dernier point, je ne sais pas trop exactement pourquoi les gens pensent cela de nos jours, mais j'aurais tendance à croire qu'une des raisons est probablement l'amalgame entre christianisme et Occident. Encore un préjugé. Mais vu de loin, vu d'ailleurs, l'idée fréquente est en effet que tous les Occidentaux sont chrétiens. Nous savons que c'est malheureusement loin d'être effectivement le cas. Et comme les mœurs de l'Occident apparaissent fréquemment comme immorales, décadentes, les non-occidentaux le voient bien. Et même si c'est par amalgame ou stéréotype, il est alors logique pour quelqu'un de pieux, pour quelqu'un essayant d'être un bon musulman, par exemple, d'en déduire que les chrétiens vivent largement dans l'immoralité. Oui, je pense que le fait que la Bible et la foi chrétienne soient trop souvent associées à l'Occident engendre facilement des préjugés qui opposent à l'Évangile. Il faut logiquement le comprendre, car c'est un Occident dont l'exemple dans les siècles passés, et l'exemple encore aujourd'hui, est très loin d'avoir été ou d'être encore exemplaire. On le sait, c'est peu de le dire. Et à mon avis, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens, dans le sens d'une amélioration. Oui, on peut donc le comprendre. Mais j'aime bien des témoignages du livret qui racontent, là je cite un autre exemple, Rahim, un musulman indien, découvre que ses voisins sont apostats. Rendez-vous compte, des musulmans devenus chrétiens. Malgré son aversion, il est intrigué et décide d'écouter ce qu'ils disent. Alors il les espionne. Sidéré, il réalise qu'il prie pour que Dieu le bénisse. Il réalise que ces chrétiens, ces anciens musulmans, prient pour que Dieu le bénisse. Heureusement, la réalité de vie de chrétiens, de beaucoup d'entre eux, de tous, j'espère, bouscule les préjugés. Prions pour que Dieu les aide et nous aide à vivre des vies véritablement à sa gloire, à l'exemple de Christ, pour effectivement bousculer les préjugés. Ici en Europe, les préjugés, c'est peut-être... c'était le temps de mon temps, il y a quelques décennies. Effectivement, être chrétien, c'est être rabat-joie quand même. Commencer à croire en Dieu, c'est rentrer dans les ordres. C'est ne plus pouvoir faire ce qu'on veut. Montrons-leur que non. La vraie joie, au contraire, c'est en Christ qu'on peut la découvrir. Ce n'est pas pour rien que la Bible, Dieu, par la plume de l'apôtre Pierre, par exemple, nous exhorte sur ce point, nous encourage. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, dit-il. Afin que là même où ils vous calomnient, là même où les préjugés les opposent à vous, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent au contraire votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Le jour où il interviendra dans leur vie. Le jour où Dieu leur montrera la grâce qu'il veut leur offrir. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Mais Seigneur, aide-nous, aide-moi à avoir ce témoignage-là. Votre préjugé et la croyance va bien au-delà du monde musulman, bien sûr, et que la Bible est un livre modifié, un livre falsifié, ne dit donc pas la vérité. Et à ce sujet, je reprends les éléments d'un podcast qui cite Tout pour sa gloire, qui a bien abordé le sujet, je trouve. Vous aurez le lien dans mes notes. La question de la modification de la Bible, c'est effectivement un élément qui revient très souvent dans les conversations avec les musulmans. C'est donc devenu une sorte de dogme dans l'islam, mais qui ne s'appuie pas sur une réalité documentaire. C'est quelque chose qui s'est développé petit à petit, bien après la rédaction du Coran. Car d'après les spécialistes, si on regarde dans le Coran, il n'est jamais question de falsification de la Bible. Il peut y avoir par contre, dans d'autres écrits de Mahomet, des reproches contre les juifs qu'il aurait fait, selon lesquels ils auraient détourné les Écritures et donc l'Ancien Testament de leur sens. Pour ce qui les concerne, l'accusation n'est pas à l'origine un problème de falsification, mais un problème d'interprétation. Et puis, ce qui concerne le Nouveau Testament, le Coran ne dit pas non plus qu'il y aurait eu falsification. Et comme le Coran annonce que la venue de Mahomet serait prédite dans la Bible, que de fait, on ne trouve pas ce genre de prédiction, la déduction a été faite a posteriori que cette prophétie aurait été retirée de la Bible. Et ce n'est évidemment pas possible de prouver cela en s'appuyant sur les manuscrits bibliques. Alors, à votre avis, quel est l'écrit qui est erroné? Je vous laisserai répondre, hein, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Comme on vient de l'évoquer rapidement, les préjugés populaires, et il y en a, contre la Bible, contre son message, contre celles et ceux qui y croient, peuvent souvent s'expliquer avec une certaine logique. Mais ma conviction en tant que chrétien, c'est aussi, évidemment, un non-chrétien peut avoir à la liberté d'avoir un autre point de vue, mais c'est qu'il y a une cause plus profonde. Il y a aussi du spirituel là-dessous, et c'est mon deuxième point. Mais la suivante, Pedro. Peur de la révélation spirituelle que met en lumière la Bible. Jean disait, on l'a lu tout à l'heure, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. De façon catégorique et sans nuance, l'évangile de Jean parle de ténèbres et de lumière. Comme souvent, il utilise les concepts dans leur absolu. Avec lui, pas de zone grise, pas de zone floue, pas d'indécision. C'est lumière ou ténèbres, point barre, pas d'entre-deux, pas d'autre alternative. Pourquoi ce livre fait-il si peur? Qu'y a-t-il dedans pour qu'on punisse autant? Questionner le jeune Moussa. C'est certainement parce que, justement, quand on ouvre la Bible, une lumière en jaillit, une lumière, et une lumière qui met en lumière, c'est le terme de dire, c'est la bonne expression, une lumière qui met en lumière nos ténèbres. Et il y a de quoi avoir peur. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière car elle les fait disparaître. Le fait que la Bible, le fait que Christ soit lumière révélée, nous montre que par contraste, tout le reste n'est que ténèbres. Le fait que la Bible, le fait que Christ soit lumière révèle que ma vie, sans lui, n'est que ténèbres. Le fait que ce livre nous le montre, par opposition à la sainteté, à la perfection de Dieu, du fait que nous sommes perdus, et en plus que notre péché est irrémédiable par nous-mêmes en tout cas, ce ne sont pas juste des concepts, mais bien des absolus que la Bible affirme. Et la plupart des gens ne sont pas nécessairement demandeurs de ce genre de constat de prime abord terrible et dérangeant. On peut comprendre que ce livre fasse peur. Ouais, on peut quand même trouver cela excessif de le dire. Mais oui, selon les termes de l'apôtre Jean et ceux des autres évangélistes d'ailleurs, en fait selon les termes de Jésus lui-même, avant que le Sauveur ne change nos vies, nous sommes et demeurons dans les ténèbres. c'est le cas pour tout être humain, c'est ça la révélation de la réalité spirituelle que fait la Bible. Une réalité parfois assumée par les personnes concernées, c'est bien triste. Mais pour la plupart des gens, c'est plutôt une réalité méconnue, et en tout cas fréquemment niée. Oui, non, oui, enfin lui, oui, mais moi, ma vie, pas si mal que ça quand même. Tu vois, comparé à elle, ça va. Alors oui, je peux comprendre que la Bible soit un livre qui peut de prime abord faire peur. Pedro, si tu es la suivante, de par ce qu'elle révèle. Un commentaire sur Internet dit à juste titre, la chose la plus effrayante au monde, c'est la vérité. La chose la plus effrayante au monde, c'est la vérité. Et on le sait, le fondement de ta parole, la parole de Dieu, est la vérité. C'est ce que nous dit un psaume, que Jésus confirme aussi, bien sûr, quand il dit à Dieu dans une prière, ta parole est la vérité. Nul doute que désormais nous nous en réjouissons. J'espère. Mais la vérité crue sur la vie du pécheur n'est pas toujours facile à découvrir, à confronter, à accepter. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nous dit ce verset de l'Épître aux Hébreux. Et ça, je ne vous apprends rien, même en tant que chrétien, des fois, on n'a pas toujours envie. Pour les non-chrétiens, c'est encore plus le cas. La parole de vérité juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors logiquement, l'opposition se réveille pour faire taire Dieu. Surtout ce Dieu qui révèle et réveille les consciences. Un constat de péché, oui, ça dérange. Et ça fait peur. Pour les autorités du pays de Moussa, qu'ils en aient eu conscience ou non, je pense que leur peur pouvait bien venir de là. C'est d'autant plus vrai, je crois, que quelqu'un est attaché à des croyances ou des pratiques, que ce soit des traditions, des habitudes, un héritage ancestral, une culture, une religion. C'est-à-dire que si à titre personnel on se sent plutôt perdu, sans repère ou sans vraiment d'idées ou de valeurs, si on est plutôt insatisfait de ce que l'on vit ou de ce que l'on nous a fait croire, découvrir ce que la Bible révèle tombe souvent bien, et est souvent bien reçu. Mais dans beaucoup de familles, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés ou de cultures, le poids de la tradition, le poids du regard des autres, la pression des autres et de la société peuvent être forts, et surtout fortement opposés au changement, à votre changement, à votre trahison. C'est en tout cas souvent comme ça que les autres voient une conversion à Christ. Et quand soi-même on est fortement attaché à d'autres certitudes, on le sait, c'est pas toujours facile d'en changer. Pas toujours facile de se remettre en question, de se remettre en cause, et d'accepter cette trompée depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis je ne sais pas combien de temps. Oui, pour soi-même ou pour les autres, on peut facilement comprendre qu'il y ait fréquemment une peur. Peur que ça change ou déstabilise le système, ou les hiérarchies, ou les autorités, ou les mœurs. Peur que ça compromette la culture ancestrale et la prétendue harmonie de la famille, ou du village, ou de la société. Comme dans l'Empire romain, encore de nos jours, dans les sociétés animistes ou syncrétistes, ou empreintes de superstition. Le fait notamment de ne plus honorer les ancêtres, par exemple. Ne plus faire ce que Dieu, entre guillemets, ou les dieux, ou les esprits demandent, amène aussi chez les autres une forte opposition par peur de malédiction à venir. C'était vrai il y a 2000 ans, mais c'est encore vrai aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. l'inertie et même l'opposition au changement, c'est bien un problème de l'être humain. Et dans le domaine spirituel, peut-être encore plus que dans tout autre domaine. Mais bien heureusement, cela n'empêche pas Dieu de changer les vies. Ça sera peut-être le troisième point. Peur, car la Bible, Dieu change les vies. En continuité, et de façon évidemment imbriquée avec les éléments déjà mentionnés, oui, il est normal que le fait que Dieu change les vies puisse aussi faire peur. Surtout quand on ne connaît pas Dieu, ou pas encore bien Dieu. Dieu n'est-il pas un peu méchant quand même? Ça, c'est l'idée que beaucoup de gens s'en font quand ils ne le connaissent vraiment pas. Dieu n'est-il pas quand même exigeant, voire très exigeant? Dieu ne va-t-il pas faire exprès de m'empêcher de faire ce que je veux? Dieu ne va-t-il pas m'envoyer là où j'ai pas envie d'aller? Suivre Dieu ne va-t-il pas me coûter cher? Dans le sens où je vais devoir abandonner beaucoup de choses pour lui. D'une façon encore plus abrupte, dans le sens où je vais perdre beaucoup de choses à cause de lui. Des mauvaises habitudes, certes. Et peut-être aussi ma famille, mon travail, ma liberté, ma vie même. En France, nous sommes globalement cool en la matière, relativement libres, à l'abri de telles problématiques. Mais au Niger, en Iran, au Bhoutan, au Pakistan, en Birmanie, et la liste de pays serait longue, le prix pour suivre Christ n'est-il pas exorbitant, important en tout cas? Je peux comprendre que ça fasse peur. Dieu change des vies, mais le fait que tout le monde ne le comprenne pas, ne l'accepte pas, oui, ça peut faire peur. Nous soutenons, dans la prière notamment, celles et ceux qui auraient de telles craintes. Soutenons effectivement nos frères et sœurs dans ces pays à forte opposition. Mais avant qu'on prie, justement, je souhaite finir par une note d'encouragement, en relisant simplement le cas particulier d'un changement de vie assez spectaculaire, un témoignage parmi tant d'autres. Alors pour le coup, ce n'est pas un témoignage qu'il y a dans le livret de prière, mais un témoignage que l'on a dans la Bible, justement, où nous connaissons sans doute celui de l'apôtre Paul. Ce récit aide à dissiper toute peur que nous pourrions encore avoir. Donc je lis quelques versets de la lettre aux Galates, où Paul dit « Vous avez entendu parler de la façon dont je me comportais quand j'étais encore attaché à la loi et aux coutumes juives. Vous savez avec quelle violence je persécutais l'Église de Dieu et m'efforçais de la détruire. » Dans la pratique de la loi et des coutumes juives, je surpassais la plupart de ceux de mon âge appartenant à mon peuple. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux par les traditions de mes ancêtres, de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi de le ventre de ma mère et il m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son fils, je saute au verset 22, un persécuteur, Dieu a fait un fidèle témoin. Les églises de la Judée qui croient au Christ ne me connaissaient pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé alors de détruire. » Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé alors de détruire. Et elle louait Dieu à mon sujet. Elle louait Dieu à mon sujet. Croyons-nous que Dieu a encore cette capacité d'agir? Amen. Je vous invite à prier, et donc porte ouverte à envoyer quelques slides si tu veux les montrer, Pedro. les événements qui se passent particulièrement au Proche-Orient, de soutenir l'Église, soutenir les frères et sœurs là-bas. Alors moi, c'est vrai qu'à titre personnel, j'aurais plutôt tendance à prier pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens que plutôt prier pour les chrétiens. On sait où les uns et les autres vont finir l'éternité, vont passer l'éternité s'il n'y a pas de changement pour les non-croyants. J'aurais plutôt envie de prier pour les persécuteurs, même si c'est peut-être plus dur. Prier pour celles et ceux qui persécutent et pour celles et ceux qui sont encore dans les ténèbres.